morning edition from NPR News.
Dann sieht hieß an Bieberhausen.
France Inter, le 18-20.
Le chaud, le froid, les bruits de bottes, les paroles d'apaisement sur la diplomatie. Une fois de plus, le week-end a été difficile à lire entre Russie et Ukraine. Le lundi, pas mieux d'ailleurs. On va essayer ensemble de comprendre si on est toujours au bord de cette guerre ou en plein bluff, ou les deux. Avec Frédéric Ancel dans un tout petit instant, avec les correspondants de France Inter aussi qui nous emmèneront de Moscou à Washington, en passant bien sûr par l'Ukraine. Le bruit du monde ce soir est en Côte d'Ivoire. Vous verrez, comme nous le faisons régulièrement, comment les Ivoiriens regardent notre campagne présidentielle. Vous verrez qu'ils s'y intéressent de près et aussi ce qui les effraie. Le bruit du monde, la suite. Sous les radars, Sébastien Legénie a trouvé les méthodes pas très orthodoxes de la police de Wellington pour déloger les antivax. Un avatar donc très cool pour aider un candidat trop rigide, c'est en Corée du Sud. Et puis comment on célèbre la Saint-Valentin aussi en Arabie Saoudite. À 18h55, c'est le monde d'après de Jean-Marc Four. Retour en Ukraine et aussi à l'efficacité supposée des sanctions contre la Russie. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Frédéric Ancel.
Bonsoir.
Vous êtes géopolitologue, vous êtes maître de conférences à Sciences Po Paris, professeur à la Paris School of Business. Notamment, votre dernier ouvrage, qui est encore tout chaud puis qui sort à la fin de ce mois, s'appelle « Les voies de la puissance, penser la géopolitique au XXIe siècle » chez Odile Jacob. Je le disais tout à l'heure, il ne s'est pas passé grand-chose au fond sur le front de cette pas encore drôle de guerre entre la Russie et l'Ukraine. Et pourtant, il s'est passé plein de choses aussi. On a continué à se parler. Il y a eu même un coup de fil entre Biden et Poutine. Il y a des dates qui ont même été jetées par les Américains sur un début d'invasion. J'y mets des guillemets parce qu'on en est là. On va donc aller à la fois en Russie, en Ukraine, aux États-Unis. On va surtout essayer de décrypter ces messages-là. Si on s'en tient aux déclarations de ces dernières heures, Frédéric Ancel, on a d'un côté Lavrov, chef de la diplomatie, qui dit « il y a une porte ouverte toujours pour la diplomatie ». On a l'Ukrainien Zelensky qui lui dit que son appartenance à l'OTAN garantit sa sécurité. Donc on a l'impression qu'il remet une pièce dans la machine. On ne peut pas imaginer qu'il ne le fait pas exprès. Et puis on est aux États-Unis, il est presque midi, mais déjà une première déclaration qui dit que le dispositif militaire russe a encore été renforcé au cours de ce week-end. On a bien compris que chacun jouait sa partition, mais pardon, comment on fait pour y retrouver ses petits, nous ?
Alors vous avez raison de parler de partition. On est dans le message, hein. Ça fait un peu plus de 25 ans que je dis que démonstration de force vaut force en géopolitique. C'est-à-dire que M. Poutine nous dit quelque chose. Au lieu de convoquer un ambassadeur de l'OTAN ou l'Union européenne ou que sais-je, en lui disant gentiment qu'il aimerait bien, de préférence, que l'Ukraine n'intègre pas l'OTAN, là, il amasse 100 000 ou 120 000 hommes avec des chars qui, entre parenthèses, sont quand même extrêmement rouillés. Là, il nous le dit de manière extrêmement forte. Mais, pardon, ce n'est que l'une des nombreuses secousses dans une crise tellurique qui dure depuis 2014, puisque je rappelle que en 2014, pour la première fois, un président ukrainien, et depuis tous ses successeurs, ont décidé de passer plutôt vers l'Ouest. Alors plutôt sur le plan à la fois économique, avec peut-être le renforcement de leurs liens avec l'Union européenne, mais aussi éventuellement une adhésion à l'OTAN. Et l'adhésion à l'OTAN, pour la Russie, ce serait une ligne rouge absolue. Donc ça ne veut pas dire que la Russie aujourd'hui veut faire la guerre, puisque pour l'instant ce n'est pas à l'ordre du jour, cette adhésion à l'OTAN. Mais en même temps, Poutine nous dit de manière extrêmement ferme, forte, vigoureuse, que de toute façon, ça ne se passera pas comme ça.
Alors il nous le dit depuis quand même un certain temps. Puis autour, il y a plein de choses qui s'agitent. Il commence à y avoir des choses écrites sur le fait que si tout le monde navigue à vue, c'est précisément parce que peut-être que lui aussi, en fait. Est-ce que vous croyez à cette idée que, au fond, il ne sait pas bien où, maintenant qu'il en est là, où est-ce qu'il s'arrête? Qu'est-ce qui peut se passer maintenant pour lui, en fait, si ce n'est décider de faire reculer ses hommes? Reculer ses hommes, ça veut dire admettre qu'on a perdu.
Alors c'est ça. D'abord, moi je pense que Poutine, en très bon lecteur dans le texte de Clausewitz, c'est le stratège prussien du 19e, sait parfaitement où il va depuis 2000. À chaque fois qu'il y a crise, il joue de manière relativement prudente, brutale mais prudente. Autrement dit, il sait parfaitement jauger ce que peut lui apporter une crise et ce que peut lui coûter cette crise. Et là, en l'occurrence, je pense qu'il sait parfaitement que envahir l'Ukraine lui apporterait finalement très peu, parce qu'encore une fois, l'adhésion à l'OTAN, pour l'instant en tout cas, n'est pas de mise.
Mais ça lui coûterait très cher.
Ah mais non, mais des sanctions économiques, financières et techniques pour un pays dont je rappelle que le PIB est équivalent à celui de l'Espagne. Donc ça, il le sait parfaitement. En revanche, là où je vous suis, c'est que maintenant qu'il est monté en quelque sorte quasiment justement aux extrêmes, il faut qu'il puisse légitimer auprès de sa propre population, auprès de son opinion publique, la désescalade. Autrement dit, je pense que maintenant, dans les prochains jours, les prochaines semaines, il va attendre, ou il attend déjà, un message d'apaisement de la part des Occidentaux.
Est-ce que c'est pour ça, parce qu'il a besoin à ce moment-là d'en appeler à sa population, on va y venir avec Sylvain Tronchet dans une petite seconde, est-ce que c'est pour ça qu'il y a cette mise en scène aujourd'hui, qui est même télévisée, donc il prend le peuple russe à témoin, c'est ça qu'il est en train de jouer en ce moment, Vladimir Poutine ?
Absolument. C'est celui qui défend le peuple russe, c'est celui qui défend l'orthodoxie, parce que je rappelle qu'il instrumentalise à outrance aussi la religion, c'est celui qui défend tout ce qui relève de d'une Russie qui, à ses yeux, a toujours été victime d'une espèce de grand complot, en tout cas d'une manigance occidentale, et qui a vécu les années 90 de manière terrible et qui a perdu beaucoup de territoires ex-soviétiques.
Mais là, je vous entends, ça veut dire qu'il est en train d'essayer de se sortir, de se trouver lui-même une porte de sortie, le garçon, en fait.
C'est ça, c'est-à-dire que jusqu'à présent, il a très bien joué, et on voit bien qu'aujourd'hui, les Américains sont obligés d'en faire tenter plus et d'ameuter le monde entier, sachant que, à mon sens en tout cas, il n'y a pas de risque d'invasion immédiate. Seulement, le problème, c'est qu'une fois que vous êtes monté à l'acmé de la crise, aux extrêmes, eh bien encore une fois, je le répète, il faut légitimer auprès de votre population le fait de sortir, mais de sortir la tête haute. Vous ne pouvez pas vous permettre de dire « j'ai massé 120 000 hommes pour rien et maintenant je m'en vais sans n'avoir rien obtenu ».
Alors justement, on va aller à Moscou et on ira aussi effectivement à Washington dans un tout petit instant, Frédéric Ancel, voir, essayer de comprendre aussi cette espèce de discours de Joe Biden dont certains disent qu'il est hystérisant, mais encore une fois, personne ne fait rien au hasard dans ce genre de crise. D'abord à vous Sylvain Tronchet, bonsoir.
Bonsoir Fabien.
Avec nous depuis Moscou, parce que la dernière image, c'est chez vous, c'est de chez vous qu'elle vient. Il faut nous raconter cette table, j'allais dire l'autre table, encore plus grande, donc vous le racontiez tout à l'heure, que celle d'Emmanuel Macron. Peut-être qu'un jour vous nous expliquerez d'où on sort ces tables en Russie. En tout cas, deux hommes, les deux Sergueï, Lavrov, le chef de la diplomatie, Shoigu, le ministre de la Défense. À quoi ça rime, cette mise en scène télévisuelle qui a eu lieu cet après-midi chez vous?
Il faut savoir que ce genre de mise en scène, le pouvoir russe aime les utiliser. Hein. Ça n'est pas quelque chose de fondamentalement nouveau, effectivement. Ce qui est peut-être un peu nouveau, c'est que c'était en deux temps aujourd'hui, effectivement. Premier temps, donc le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, vient voir Vladimir Poutine. C'est comme si Jean-Yves Le Drian allait voir Emmanuel Macron pour une réunion de travail devant les caméras. Hein. Imaginez un peu la scène. Le président russe donc trône au bout, vous l'avez dit Fabienne, de cette table immense, plus grande encore hein, donc celle qui séparait Emmanuel Macron de Vladimir Poutine la semaine dernière, pour des raisons sanitaires, a expliqué d'ailleurs le Kremlin, qui a été interrogé hein, sur cette table cet après-midi. Et donc, Vladimir Poutine prend un air un peu surjoué, il interroge son chef de la diplomatie, il lui dit « Sergueï Viktorovitch, pensez-vous qu'il y ait encore une chance de parvenir à un accord sur les questions clés qui nous préoccupent ?» Et Lavrov répond « Il y a encore une chance ». Donc, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est qu'évidemment, hein, tout cela est cousu de fil blanc. Le Kremlin souhaite faire passer un message. Ce message, il est a priori clair, hein, c'est il y a encore de la place pour la diplomatie, d'autant que Lavrov ne va pas s'arrêter là, il va continuer, il va dire aussi il est clair que nos initiatives ont secoué nos collègues occidentaux et qu'ils n'ignorent plus nos demandes. Et puis, quelques minutes plus tard, deuxième temps donc de cette mise en scène, vous l'avez dit, hein, c'est toujours devant les caméras, toujours la même table immense, et cette fois-ci, donc, c'est Sergueï Shoigu, le deuxième poids lourd du gouvernement, qui vient annoncer au président donc la fin de certains exercices militaires. Alors, d'autres se poursuivent, dit-il, d'autres vont débuter, mais là encore, le message semble à peu près clair, quoi. Il n'est pas question d'envahir l'Ukraine, du moins pour l'instant.
Et alors là encore, effectivement, ça nous perd un peu, Sylvain. On a entendu tout à l'heure Frédéric Ancel nous dire, et vous le dites aussi d'ailleurs, que tout ça était finalement cousu de fil blanc. Mais il passe le message à qui, Vladimir Poutine, en faisant ça? Et le sous-texte de ma question, c'est est-ce que les Russes, est-ce que vraiment ça les intéresse? Est-ce que ça les interpelle, cette scène, les Russes ou pas?
Ah, alors, sur le ressenti de la population russe vis-à-vis de la politique étrangère, toutes les études d'opinion de ces dernières années sont très claires. Les Russes en ont marre de la politique étrangère. Depuis 2018 et le décrochage de l'économie russe, la relance de l'inflation ici, la perte de pouvoir d'achat, les questions domestiques de politique intérieure et surtout les questions économiques sont devenues majeures pour les Russes, très clairement. Et pour avoir fait quelques sujets, tant à Moscou qu'à la frontière ukrainienne, qu'en Crimée également, et en avoir parlé avec beaucoup beaucoup de Russes ici. On peut dire, et là encore les études d'opinion le confirment, que dans la population russe, personne, ou en tout cas très peu de gens, souhaitent une guerre avec l'Ukraine. Mmh. D'ailleurs, il a été montré aussi sur certaines études que les bénéfices politiques que pourrait en tirer Vladimir Poutine seraient extrêmement marginaux. Il y a très peu de Russes qui disent qu'ils auraient une meilleure opinion de leur président si celui-ci décidait d'envahir l'OTAN. Mais comme l'a dit Frédéric Ancel, le problème c'est que on est allé tellement loin aujourd'hui que plus la situation dure, plus le coût du pas en arrière devient élevé et au propre comme au figuré, parce qu'entretenir pas loin de 130 000 hommes en manœuvre actuellement, plus des déplacements de navires tous azimuts, il y a des manœuvres actuellement qui ont lieu bien au-delà des frontières ukrainiennes, ça coûte cher et il faut effectivement pouvoir trouver une porte de sortie d'une façon ou d'une autre.
Sylvain, est-ce que la porte de sortie, éventuellement, on l'attend, ou en partie en tout cas, un autre entrebâillement demain? Vous avez la visite du chancelier Scholz, par exemple, chez vous. Il se passe des choses demain. Est-ce qu'on se dit que Vladimir Poutine attend d'empiler ces moments-là pour pouvoir prendre une décision?
Alors, en tout cas, il y a deux échéances importantes, je pense, qui permettront de jauger de la réalité des intentions du Kremlin et de la réalité des messages envoyés, affichés aujourd'hui au travers de cette mise en scène dont on parlait tout à l'heure. La première échéance, effectivement, vous l'avez dit, c'est la venue demain d'Olaf Scholz. On aura un point de référence, finalement, avec la rencontre avec Emmanuel Macron la semaine dernière, où Vladimir Poutine a affiché une vraie cordialité à l'égard du président français, le tutoyant ostensiblement, le recevant de manière très très bonhomme, très très sympathique, mais dans le même temps étant extrêmement fermé, figé sur ses positions et même allant jusqu'à menacer d'utiliser l'arme nucléaire quasiment lors de la conférence de presse commune qu'ont tenu les deux. Il y a eu des propos quand même assez forts de la part du président russe. On aura un point de référence, on verra si demain avec Olaf Scholz il y a ou non une inflexion. Et puis la deuxième échéance, peut-être la plus importante, il y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour, vous savez. C'est ce qu'on dit. Et il n'y a pas
surtout
de désescalade. Exactement. Il n'y a que des preuves de désescalade. Le 20 février, c'est-à-dire dimanche prochain, ce jour-là, doivent se terminer les manœuvres les plus importantes qui ont lieu actuellement. Ce sont les manœuvres conjointes que la Biélorussie et la Russie mènent à la frontière ukrainienne. Si on voit ce jour-là ou dans les jours qui suivent des convois ferroviaires chargés de matériel repartir vers l'Est, alors là et seulement là, on pourra parler de désescalade.
Merci beaucoup Sylvain. Deux choses là-dessus, Frédéric Ancel. D'abord, effectivement, la visite de Scholz après celle de Macron. Est-ce qu'il a envie d'envoyer ce genre de choses? Il est joueur, pardon de le dire comme ça, Vladimir Poutine, d'envoyer autre chose à Scholz qui est allemand. Il y a des relations entre l'Allemagne et la Russie qui sont très différentes que ce qu'il a envoyé à Emmanuel Macron.
Oui, sans doute. Vous savez, le traité de Rapallo entre l'URSS et l'Allemagne a été signé il y a un siècle de ça. Et au fond, on n'en est jamais réellement sorti. C'est-à-dire que les relations économiques entre la Russie et l'Allemagne sont extrêmement importantes pour les deux. Le gaz naturel, le pétrole russe et puis évidemment les machines-outils allemandes. Et ça fait un siècle que ça dure. Donc effectivement, la principale puissance politique de l'Europe, c'est la France, surtout depuis le Brexit. Et comme ça a été très bien dit, Vladimir Poutine a accueilli très favorablement Emmanuel Macron. Maintenant, il reçoit la première puissance économique. Et de ce point de vue-là, il est bien clair que Poutine ne peut absolument pas se passer non seulement de l'Allemagne, mais de l'Union européenne. Mmh. Et là, on a affaire à un personnage clé, parce que c'est celui qui pourrait, oui ou non, faire basculer un corpus de sanctions beaucoup plus lourd que ce qui serait prévu sans l'Allemagne, en cas d'invasion, mais vous avez compris que je ne croyais absolument pas, et pour cause, à l'invasion russe de l'Ukraine.
Alors, on verra, effectivement, il a raison, Sylvain, ce qui se passe le 20, effectivement, qui est une date clé, une date charnière. Il y a une autre date et une autre interrogation, c'est le 16, après-demain. Ça, c'est ce qu'envoie Joe Biden ce week-end, en disant il y a une possibilité pour que... Comment il faut lire ce que certains, encore une fois, appellent, on va rejoindre Sébastien Paour dans un instant, c'est ce qu'on a appelé l'hystérisation même de la part des Américains.
Oui, c'est un mot que je reprends tout à fait à mon compte. Autant Vladimir Poutine est un maître en propagande, autant Biden, je pense que les historiens le diront, là, sur cette séquence, a quasiment dépassé le maître. C'est-à-dire qu'il y a une hystérisation, effectivement. Pourquoi? Parce que Biden, souvenez-vous de sa campagne électorale et de sa prise de fonction il y a un peu plus d'un an, Biden, contrairement à son prédécesseur Trump, a toujours voulu revaloriser l'OTAN. Là, la crise ukrainienne lui donne une occasion inespérée de redonner du lustre, de la cohérence à l'OTAN. Pourquoi ? Parce que non seulement face à Russie, mais aussi et surtout face à la Chine, ces prochaines années. Biden considère que l'OTAN doit être un instrument, un bouclier en quelque sorte, extrêmement important. Donc je pense qu'aujourd'hui, Washington et le Pentagone et M. Biden jouent énormément là le risque ou la menace russe sur l'Ukraine, précisément pour qu'il n'y ait plus qu'une seule tête. Et vous noterez que ça marche pas mal, à tel point que même des pays comme la Finlande ou la Suède commencent à se demander dans quelle mesure il pourrait pas un jour y avoir adhésion face aux menaces russes. Donc je dirais que des deux côtés, hein, on a atteint un niveau de, comment dirais-je, de menace, de rhétorique, sémantique, gestuelle, qui correspond à une véritable stratégie.
Alors moi justement là-dessus, Sébastien Paour, bonsoir.
Bonsoir Fabienne.
Vous qui êtes à Washington, je voudrais qu'on ces messages alarmistes, on les a entendus venant de chez vous sur l'imminence d'une guerre. C'est vraiment tous les jours. Le dernier, il date vraiment d'il y a quelques heures, qui parle de dispositifs militaires russes encore renforcés au cours du week-end. C'est ce que dit le Pentagone. Comment ça se lit, ça, chez vous? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on en dit de ce qu'on a appelé ici parfois l'hystérisation?
Rappelons d'abord ce que c'est, cette hystérisation. Frédéric Ancel en a dit un mot. Les mêmes mots alarmistes, les mêmes menaces dans la bouche à la fois de Biden, mais aussi de son chef de la diplomatie, Anthony Blinken, de son conseiller à la sécurité nationale, Jake Sullivan. Encore donc tout à l'heure du porte-parole du Pentagone qui dit que le dispositif militaire russe s'est encore renforcé ce week-end. On a parlé de signes de guerre imminente dans les prochains jours. Vous l'avez dit aussi que c'était pour mercredi. Ouais, après-demain, on nous a dit que l'invasion ne commencerait pas finalement. Au début, on nous disait que ce serait pas avant le début des Jeux Olympiques, puisque Poutine était à Pékin pour la cérémonie d'ouverture. Aux dernières nouvelles, c'est pour mercredi, ce sera peut-être après les Jeux. Bref, on a eu plein de détails aussi sur le nombre de soldats russes déployés, sur le nombre de victimes, de déplacés que ferait un conflit. On a détaillé l'envoi des troupes depuis les États-Unis. Vous vous souvenez, le redéploiement des soldats qui sont déjà, des soldats américains qui sont déjà en Europe. Et puis on a presque intimé l'ordre aux Américains en fin de semaine dernière
de
quitter l'Ukraine en 24 à 48 heures. Bref, on fait peur pour éviter le pire et peut-être que Frédéric Ancel a raison, peut-être que Biden est devenu plus fort à ce jeu-là que Poutine. Pour être encore plus convaincant, les États-Unis ont décidé de changer leur fusil d'épaule. Si vous me permettez l'expression, ils donnent des preuves maintenant de ce qu'ils avancent. Ils ont essayé, et on verra si c'est une stratégie qui est gagnante, ils ont essayé de prendre de vitesse les Russes sur ce terrain de la guerre de l'information. En gros, diffuser pas mal de renseignements pour appuyer son argumentaire alarmiste et devancer Moscou dans un domaine que les Russes, et Frédéric Ancel le disait à l'instant, connaissent très bien. Ils ont un ancien du KGB à leur tête. Les fausses allégations, les fausses vidéos d'atrocités par exemple, qui pourraient être utilisées comme prétexte à une invasion. En somme, on dit que la guerre est là pour essayer d'éviter la guerre.
Ouais. Et c'est une tactique qui consiste à rendre public des renseignements. Il y avait un gros papier dans le New York Times ce matin qui allait vraiment dans ce sens-là. Et ça, c'est plutôt nouveau, en tout cas nouveau dans cette période très contemporaine des États-Unis.
Oui, et jamais à ce niveau-là, d'après les experts qui sont aussi cités par le New York Times ce week-end. Si on pense à l'intervention américaine en Irak en 2003, l'administration Bush utilise tous ces renseignements pour justifier la guerre. Jusqu'à Colin Powell aux Nations Unies, on se souvient qu'il brandit une fausse fiole d'anthrax. On en a reparlé récemment au moment de sa mort. Aujourd'hui, les États-Unis diffusent les plans de Poutine, les photos satellites de ses chars autour de l'Ukraine, préviennent qu'il y aura potentiellement 50 000 morts, des millions de déplacés pour éviter la guerre. Washington ne veut pas se retrouver prise de court comme en Crimée, dans le Donbass, sous l'administration Obama, quand Biden était vice-président. Et ça, oui, c'est nouveau. D'après les observateurs ici, on doit ça en particulier à la patronne du renseignement national, Avril Haines, qui a été nommée par Biden, et au directeur de la CIA, Bill Burns, qui ont poussé tous les deux la Maison-Blanche, nous dit-on, analyse-t-on ici, à diffuser leurs renseignements, à dire au monde entier et à Poutine, on sait où vous êtes, on sait ce que vous avez en tête. Madame Haines était à Bruxelles dès la mi-novembre pour partager ses infos avec les alliés européens. Encore une fois, on verra si c'est bien, mais en tout cas, c'est salué par deux anciens. Et on peut le noter des administrations précédentes dans le New York Times. Un ancien responsable du renseignement de Trump qui dit qu'il trouve ça génial, que ces révélations font sans doute peur au Kremlin, que ça peut obliger Poutine à réfléchir à deux fois. Et puis, par l'ancien ambassadeur des États-Unis de Barack Obama en Russie, quand elle a annexé la Crimée, il raconte lui qu'à l'époque, il s'est dit plusieurs fois qu'il aurait été sans doute été plus efficace de dire au monde ce que l'Amérique savait. Peut-être aussi que l'épisode de l'ingérence de 2016 dans la présidentielle américaine, l'ingérence russe, a aussi changé les choses.
Merci beaucoup, Sébastien Paour. Très rapidement, Frédéric Ancel, parce que je veux qu'on aille en Ukraine, couper l'herbe sous le pied comme ça en termes de renseignement à Poutine, est-ce que oui, c'est une stratégie qui vous semble efficace?
C'est surtout une stratégie qui semble efficace du point de vue de l'OTAN et intra-occidental. Encore une fois, Biden, ce qui l'intéresse, je pense qu'il est à peu près convaincu que Poutine sait très bien que ce serait trop cher d'envahir l'Ukraine aujourd'hui, surtout qu'il n'y a absolument aucune urgence. En revanche, il souhaite réhabiliter l'OTAN et renforcer la puissance et la cohérence l'importance de cette alliance, hein, comme je le disais. Et de ce point de vue-là, ça, on va dire son alarmisme hein, est effectivement extrêmement intéressant. Mais je pense que c'est absolument pas cela qui peut convaincre dans un sens ou dans un autre Vladimir Poutine.
Bonsoir Thibault Lefèvre.
Bonsoir Fabienne.
Thibault, vous avez les pieds en Ukraine. Si vous regardez sur votre gauche, vous êtes en Biélorussie. Si vous regardez sur votre droite, vous êtes en Russie. Et moi, je voudrais simplement savoir ce qui se passe à ce croisement, en fait, parce que c'est Dieu sait que c'est un croisement stratégique, les fameuses trois frontières.
Eh bien, il y a beaucoup de monde. Hein. Ici, c'est toute l'Europe orientale qui se rencontre avec des chauffeurs routiers moldaves, russes, biélorusses, polonais, roumains, bulgares, quelques turcs aussi. Et j'ai pas tout vu dans le sens des arrivées en Ukraine. Eh bien, c'est franchement le calme plat. En revanche, dans le sens des départs, ça se bouscule avec une file ininterrompue de camions sur plus de 5 kilomètres. Ils partent tous d'Ukraine pour livrer des marchandises en Russie pour l'essentiel d'entre eux. Et comme bien ils attendent très longtemps leur tour pour pouvoir passer, eh bien, ils ont le temps de parler. Je vous présente Sergueï, encore un autre Sergueï, lui est biélorusse. Deux fois par mois, il traverse l'Ukraine puis la Russie pour livrer des pommes de terre entre la Moldavie et Saint-Pétersbourg. Et quand il roule du côté russe, eh bien, il ne voit rien, ni soldats, ni chars, ni lance-roquettes. Rien qui ne laisserait penser qu'une intervention armée serait imminente. Et du haut de sa cabine, il affiche même un sourire moqueur quand on lui parle de guerre. Drôle de guerre donc, et puis business as usual.
Et si on descend un peu plus et rapidement, Thibaut, s'il vous plaît, à 80 km dans l'Ukraine, c'est ce que vous avez fait. Donc on est sur la route de Kiev, qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on dit ?
Alors Tcherniv, oui, c'est une ville de 250 000 habitants, une très jolie petite ville de province avec ses églises orthodoxes. Et cet après-midi, eh bien, il faisait froid, il faisait beau, il y avait beaucoup de monde dehors et dans les cafés. Et dans ce petit restaurant à la mode dans lequel on a mangé, où on écoute, vous le saurez, la chanteuse ukrainienne Swan, eh bien les discussions tournent évidemment autour de l'éventualité d'une guerre. Les téléphones portables sont en permanence connectés, WhatsApp, Telegram, Facebook, et tout le monde suit, vous l'imaginez, en temps réel, épisode après épisode, la montée, la baisse, puis la remontée des tensions. Un yo-yo émotionnel que notre traductrice Elena, avec qui nous travaillons depuis maintenant un peu plus de 24 heures, elle vit et elle est née à Kiev, et elle a de plus en plus de mal à supporter.
On essaie de garder notre calme, on essaie de se dire que tout va bien se passer, quoi. C'est un peu la panique d'un côté parce qu'ils prennent des décisions qu'on ne comprend pas trop. C'est troublant, ça nous travaille tous, je pense. Tous les jours, on a de nouvelles informations. C'est un peu inquiétant. À un moment donné, on a la tête pleine de tout ça et ça commence à être moins dur à supporter.
Oui, ce qu'il faut donc retenir, c'est que tout ça a un impact sur la vie quotidienne des gens. Juste une dernière information, les dernières nouvelles qui tournent sur les réseaux d'Elena, eh bien, elles sont toujours aussi anxiogènes, avec notamment tout à l'heure une annonce du maire de Kiev, l'ancien boxeur Vitali Klitschko, qui dit pour se préparer à une évacuation de la ville si nécessaire. Kiev, c'est quand même 3 millions d'habitants.
Merci beaucoup Thibault Lefèvre. Une toute dernière chose, Frédéric Ancel, il y a cette expression que j'ai entendue ce week-end et que j'ai trouvé formidable, qu'on attribue, paraît-il, au général de Gaulle, qui dit « ça sert à quoi de se rapprocher du Rubicon si c'est pour pêcher à la ligne ?» Si Poutine ne fait pas la guerre, qu'est-ce qu'il aura gagné dans tout ça ?
Ah, tout de même, il aura gagné la démonstration d'une crainte et sinon d'une peur panique hein, chez les Occidentaux. La nécessité, on l'a bien entendu chez les Américains, de déployer toute une propagande dont on verra, me semble-t-il, dans les prochaines semaines, qu'elle avait comme quelque chose d'un petit peu ridicule. Donc il a réussi tout de même hein, à faire peur. Et j'ajoute un dernier mot, en toile de fond, vous avez la Chine. Souvenez-vous de ce qui s'est passé il y a quelques jours de cela au Kazakhstan, où là on n'a aucun rapport avec l'OTAN. Poutine dit également à la Chine, contrairement à ce que vous pouvez croire, nous ne sommes pas les petits poussins, nous ne serons pas les Lilliputiens par rapport à vous, le Gulliver, et nous avons encore dans notre étranger proche la capacité de faire à peu près ce que nous voulons faire.
Merci beaucoup Frédéric Ancel. J'ai dans l'idée qu'on est amené à se revoir autour de ces sujets-là. Merci vraiment. La suite ce soir, c'est le bruit du monde et nous sommes en Côte d'Ivoire, comme on aime le faire régulièrement. Nous allons voir comment les Ivoiriens suivent notre campagne électorale. Vous verrez que ça les intéresse beaucoup. Et puis jusqu'à 19h, Sébastien Legénie sous les radars.
La Nouvelle-Zélande essaye de démanteler un campement d'antivax devant son Parlement avec toutes les techniques possibles, y compris le mauvais goût musical.
Allez, le monde d'après, Jean-Marc Four, bonsoir.
Bonsoir à tous. On va prolonger la réflexion que vous aviez à l'instant avec Frédéric Ancel et se demander si les sanctions économiques, ça peut marcher contre Vladimir Poutine. Et c'est pas gagné.
Allez, ne bougez pas, les amis. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par une route qu'on emprunte souvent dans le 18-20. Grâce à Djoubaka, notre programmateur, Calypso Rose et Calypso Blues sur France Inter. bruit du monde est en Côte d'Ivoire. Ce soir, et comme nous le faisons régulièrement, il donne à voir notre campagne électorale vue de l'extérieur. À Abidjan, la campagne présidentielle française est suivie avec beaucoup d'intérêt. La présence de la France, évidemment, est toujours très importante ici. C'est l'un des grands partenaires et contributeurs économiques, l'un des plus grands. Et les chaînes de radio et télé françaises sont aussi très consommées. Comme il y a 5 ans, c'est la montée de l'extrême droite qui préoccupe la Côte d'Ivoire. Le reste, c'est Amandine Réau qui raconte.
Dans le quartier populaire d'Anono, à Abidjan, Christian Brice et leurs amis, la quarantaine, se retrouvent presque tous les jours en terrasse autour d'une bière. Et si ces soirs de match, personne ne manque à l'appel, ils discutent de tout, beaucoup de football et un peu de politique française. Comme une majorité d'Ivoiriens, Christian, exploitant forestier, a de la famille en France, alors la montée de l'extrême droite le préoccupe.
Éric Zemmour, moi, j'ai rien contre lui. Il peut faire aussi un bon candidat, mais ses prises de position ne cadrent pas avec nous, les Africains, ce que nous souhaitons. Ce qu'il veut faire de l'immigration, c'est un peu radical. Alors, ce serait pas bien pour un Africain qui vit en France. Donc, je pense que pour ça, il n'aura pas les voix des Africains qui vivent en France et qui participent à ces élections. Je vais dire ceux qui ont la double nationalité.
Assis à côté de lui, son ami Brice, agent immobilier. Il est inquiet de voir autant de jeunes partir illégalement en Europe.
C'est à la France d'aider ces pays africains qui, par le biais de leurs enfants qui vont en immigration, d'aider ces nations-là avec sa politique sociale et sa politique là-bas, de faire en sorte que cette politique-là soit redéployée en Afrique avec des enseignements, avec des colloques, avec des séminaires et autres, pour que ces pays dits africains se remettent dans une voie de sociale, pour que cette jeunesse qui s'adonne peut-être à l'immigration, à ce risque d'immigrer, puisse rester chez eux et bénéficier de ses atouts. Il est important pour la France d'accompagner de façon culturelle, d'accompagner de façon politique, d'accompagner de façon économique, sociale, tous ces pays, en leur donnant un certain nombre de leçons qui ont fait que cette culture ou bien cette politique a peut-être réussi en Europe et qu'elle réussisse aussi ici. Pour que, bon, moi je me dis quelque part que ça peut diminuer le taux d'immigration.
Si Christian est capable de citer autant de candidats, Jean-Luc Mélenchon, Anne Hidalgo, Marine Le Pen, Éric Zemmour, c'est parce qu'il écoute et regarde des médias français. Delors Nesmon, journaliste et consultante média.
Jusqu'à un passé récent, on n'avait qu'une seule télévision publique nationale. Il n'y avait pas encore la libéralisation de l'espace audiovisuel. Du coup, pour la consommation de l'information politique, la plupart suivaient les médias RFI, France 24. Mais cette habitude n'a pas disparu malgré l'arrivée de nouvelles chaînes. Vous verrez dans les espaces publics à Abidjan, lorsque il y a une télévision qui est allumée, vous verrez qu'on n'est plus sur France 24 pour l'information.
Quand il pleut à Paris, Abidjan est mouillé. En Côte d'Ivoire, tout le monde connaît cette expression.
Cela traduit bien que toutes les décisions qui se prennent à Paris, nous suivons cela avec beaucoup d'attention. Et toutes les décisions qui sont prises à Paris ont très souvent des implications à Abidjan.
Germain Cramaux est économiste et il constate que la montée de l'extrême droite inquiète les acteurs économiques ivoiriens.
Leur crainte, c'est le protectionnisme qui pourrait être mis en place si un candidat de l'extrême droite arrivait au pouvoir. Parce que nous avons pu entendre que certains candidats avaient parlé de protectionnisme intelligent. Nous ne savons pas ce qu'il y a mis dedans, mais nous pensons que ça va aller vers les normes de protection. Et donc les produits devraient respecter certaines normes pour entrer sur le territoire français. Et si ces produits ne respectent pas ces normes, c'est ce qui va entraver, empêcher un peu nos produits d'entrer sur le territoire français.
Et pour cause, la France est un partenaire économique essentiel pour la Côte d'Ivoire. 2 milliards d'euros d'échanges commerciaux chaque année. C'est le premier investisseur dans le pays. Le chiffre d'affaires des 700 entreprises françaises en Côte d'Ivoire constitue 30% du PIB ivoirien. D'autres craintes émergent dans les discussions, comme le durcissement des conditions d'obtention du visa pour la France ou encore le statut des étudiants étrangers. Même si une minorité d'Ivoiriens veut croire qu'un président français d'extrême droite, cela signifierait moins d'ingérence dans la politique ivoirienne.
Amandine Réau, pour le reportage, merci beaucoup. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Sébastien Logéni.
Thank you.
Et nous sommes à Wellington, face à Wellington, la capitale néo-zélandaise. Sébastien, sur une pelouse en face du Parlement transformé en un campement anti-vax.
Oui, ça fait près d'une semaine que ça dure. Des Néo-Zélandais inspirés par les convois de la liberté de leurs cousins canadiens. Ils sont d'abord venus en camping-car pour contester la vaccination obligatoire des soignants ou des enseignants, par exemple. Puis les véhicules sont repartis. Il ne reste maintenant que les purs et durs qui ont décidé de s'installer dans le parc devant le Parlement, donc, tant que les restrictions sanitaires ne seront pas levées. La police a bien essayé de les déloger la semaine dernière avec la manière forte, mais ça n'a fait que renforcer leur rang et leur détermination. Ce week-end, un cyclone s'est même abattu sur Wellington, sans aucun effet non plus. Alors le président du Parlement a eu hier l'idée suivante, inonder les manifestants avec des arroseurs automatiques, tout en diffusant en boucle dans des haut-parleurs des tubes insupportables.
Moi, j'aime bien.
Ne me dites pas ça, Fabienne. Je ne peux pas infliger davantage que cela à nos auditeurs, sinon on risquerait une intervention de la médiatrice. Voilà donc l'idée lumineuse des autorités parlementaires de Nouvelle-Zélande. Saouler les manifestants de musique bruyante pour qu'ils repartent enfin. Il y avait aussi dans le lot Baby Shark, j'espère que vous n'aimez pas non plus,
mais
Fabienne. Et le très sirupeux Barry Manilow, qui effectivement mérite bien mieux. Je suis d'accord avec vous cette fois-ci. Alors, après quelques heures de cette playlist d'enfer, quel résultat? Eh bien, rien. Personne n'a bougé, bien au contraire, les manifestants comme vous se sont mis à danser dans la boue au son de ces musiques entêtantes. L'initiative du président du Parlement a fait hurler les politiques et même les policiers qui veulent juste qu'on les laisse travailler. La Macarena n'est pas encore rentrée dans la catégorie des armes de dissuasion massive.
Allez, direction la Corée du Sud qui explore de nouvelles façons de faire de la politique.
Oui, la Corée du Sud, comme la France, va élire son nouveau président au printemps prochain et l'opposition vient peut-être de trouver le candidat parfait. Il s'appelle Al Yoon, ça n'a rien à voir. Al Yoon, qui est un cyber-candidat, il est en fait l'avatar d'un vrai candidat, mais produit avec la technologie deepfake, c'est une première mondiale. Al Yoon, en fait, n'existe pas, c'est l'alter-ego numérique d'un certain Yoon Suk-yeol, candidat de l'opposition, un sexagénaire un peu tristounet qu'une équipe de geeks a décidé de rendre beaucoup plus cool.
AI Yoon Sung-yeol입니다.
Voilà, c'est Al Yoon qu'on entend. Il a la même voix, le même physique que le vrai candidat, mais ce qu'il dit est beaucoup plus corrosif, sarcastique, plus drôle, moins formaté. Des phrases sur mesure écrites par l'équipe de campagne que le vrai candidat n'a jamais prononcé dans la vraie vie, mais qui font mouche sur les réseaux. La recette fonctionne dans ce pays fasciné par les nouvelles technologies, succès notamment chez les jeunes. Al Yoon a généré des millions de vues depuis son lancement le 1er janvier dernier. Les deux candidats en tête des sondages sont maintenant au coude à coude et Monsieur Yoon, aidé par son avatar cool, est même un peu devant. Oh là là. Résultat dans la vraie vie le 9 mars prochain.
On termine en Arabie Saoudite, ça n'a vraiment rien à voir, où la Saint-Valentin fait un carton.
Mais Saint-Valentin, patron des amoureux, célébré tous les 14 février, pas besoin de le rappeler, fête d'origine chrétienne devenue ces dernières décennies une journée synonyme de consommation, surtout une fête de plus en plus populaire maintenant dans les pays arabes et en particulier dans l'un des pays les plus rigoristes, l'Arabie Saoudite. Il y a quelques années encore, la police religieuse rappelait à l'ordre les vendeurs de roses et les autres symboles de cette fête occidentale. Mais aujourd'hui, dans le droit fil de la logique d'un prince MBS qui veut apparaître plus moderne, eh bien, la lingerie rouge a fait son apparition dans les centres commerciaux de Riyad. Cette égyptienne de passage en Arabie Saoudite confirme. Avant, dit-elle, il y avait des choses qu'on avait du mal à trouver, comme par exemple de la lingerie, des pyjamas, des vêtements rouges, ils avaient tous été retirés. Maintenant, on peut tout trouver très facilement. Les magasins font des promotions, des réductions pendant le mois de février, mais attention, pas question de faire directement référence à la fête de la Saint-Valentin. Tout le monde y pense, mais personne n'a le droit d'en parler.
Nous non plus, on n'en parle pas, Sébastien d'ailleurs. Et Lana Del Rey non plus, figurez-vous. La chanson s'appelle Water Color Eyes. Ça parle de rupture et de relations toxiques. Ça nous met bien dans l'ambiance. C'est bien pour un 14 février. Why are you always doing that? Breaking up with me, then making up just to make me mad. I think that you taste like rock candy, sweet like peaches, leave me all sandy. Why do you leave me with water-colored eyes? Young love. Together. So what if you taste just like heaven? Watercolor Eyes et Lana Del Rey, je ne dirais pas que ça nous a plombé le moral, mais c'est pas loin.
Fabienne Synthèse, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc Washington dit toujours redouter donc une offensive imminente de la Russie en Ukraine. Mais à Moscou, le ton est un peu moins belliqueux aujourd'hui. On en parlait il y a un instant. En tout cas, les Occidentaux continuent de brandir essentiellement une menace, les sanctions économiques majeures contre Moscou. Mais vous ne croyez pas trop en l'efficacité de cette arme commerciale et c'est votre monde d'après.
Vous allez voir ce que vous allez voir. Voilà la tonalité du discours occidental en cas d'agression militaire russe en Ukraine. Vous allez voir ce que vous allez voir, des sanctions sans précédent et les différentes capitales occidentales rivalisent d'adjectifs, sanctions massives, drastiques, immédiates, etc. On le notera au passage, ce discours traduit deux choses en creux. D'une part, nous n'irons pas faire la guerre en Ukraine, on préférera des sanctions. D'autre part, nous sommes les détenteurs du droit et de la morale, d'où le mot sanction avec son côté punitif. Mais donc, quelles seraient ces sanctions massives, drastiques, etc. Les hypothèses envisagées sont les suivantes. Exclure la Russie du système SWIFT, c'est le système international de messagerie interbancaire qui relie 200 pays et à peu près 11 000 entreprises pour effectuer des transactions sécurisées. Interrompre la mise en fonctionnement du nouveau gazoduc Nord Stream 2 destiné à acheminer le gaz russe vers l'Europe via la mer Baltique, geler les avoirs bancaires des proches de Poutine et interdire les exportations de haute technologie, ordinateurs de nouvelle génération, intelligence artificielle. Tout ça sur le papier paraît costaud. Waouh, là il va avoir peur, hein, Poutine.
Sauf que non, pour vous, il n'aura pas peur.
Non, c'est ça, même pas peur. D'ailleurs, hier, dans un langage fleuri, l'ambassadeur de Russie en Suède l'a dit tout de go, le pouvoir russe n'en a rien à foutre des sanctions. C'est lui qui l'a dit. Et c'est sans doute vrai parce que les sanctions économiques ont rarement un impact politique. L'histoire le démontre, la seule exception, c'est sans doute au siècle dernier la fin du régime d'apartheid en Afrique du Sud. Mais sinon, c'est donc l'exception qui confirme la règle, ça ne marche pas. Aujourd'hui, il y a près de 40 régimes de sanctions internationales dans le monde. La France en applique à l'endroit, je crois, de 25 pays et l'efficacité n'est pas flagrante. Alors oui, les sanctions économiques ont un impact économique. Inflation, pénurie de produits de première nécessité, il n'est qu'à examiner les cas les plus célèbres, l'embargo américain contre Cuba depuis 60 ans, ou les sanctions contre l'Iran. Et ce sont les populations qui trinquent généralement, ça sera la même chose en Russie. Mais un impact politique, zéro patate, si ce n'est d'accroître la corruption. Les sanctions n'ont pas déstabilisé les mollahs en Iran, Kim Jong-un en Corée du Nord, ou le régime castriste à la Havane. Pas davantage Poutine après les représailles économiques de 2014 suite à l'invasion de la Crimée. L'économiste Thomas Piketty, qu'on connaît bien sur cette antenne, le relevait dans une tribune au journal Le Monde ce week-end. Pour être vraiment efficace, les sanctions devraient cibler précisément les quelques 20 000 multimillionnaires russes. Mais ça nécessiterait une sorte de registre international d'identification fiscale des millionnaires. Et ça, l'Occident n'en veut pas. Il y aurait aussi les nôtres de très riches.
Mais alors, bon, on peut quand même essayer les sanctions. Non, on n'a rien à perdre.
Eh bien si, justement, on a aussi à perdre par-dessus le marché. Celui qui sanctionne peut avoir autant à perdre que le sanctionné. D'abord, les pays visés ont l'art de trouver des solutions alternatives. On va prendre un exemple. Pousser la Russie en dehors du système SWIFT, c'est l'inciter à faire des affaires en dehors du système financier international. Par exemple, avec la Chine, avec la Banque asiatique d'investissement. Pas sûr que les Occidentaux en sortent gagnants. D'ailleurs, ça inquiète un peu la Banque Centrale Européenne. Ensuite, il y a le risque d'effet boomerang, la sanction qui vous revient à la figure. En l'occurrence, une hausse des tarifs du gaz, si on coupe le robinet russe, une hausse du baril de pétrole et donc de l'essence en cas d'embargo contre Moscou, une hausse du blé, la Russie est le premier exportateur mondial. Bon, j'arrête là, vous avez compris, l'arroseur a arrosé quoi, en fin de compte. D'autant que les Européens, Allemands, Britanniques, Français sont les premiers investisseurs étrangers en Russie. Vous allez me dire, on va trouver d'autres marchés, d'autres fournisseurs. Ouais, mais par exemple sur le gaz, en fait, on va se tourner vers les États-Unis qui vont donc en tirer profit. C'est forcément quand même un peu troublant hein, puisque les Européens seraient en quelque sorte les dindons de la farce. Je dis pas qu'il vaut mieux faire la guerre, hein. Je dis juste qu'il faut prendre avec des pincettes le « vous allez voir ce que vous allez voir » et ne pas se bercer d'illusions sur l'efficacité de sanctions économiques, même drastiques et massives.
Allez, le monde d'après, c'est tous les jours dans Un jour dans le monde, signé Jean-Marc Four. Merci beaucoup, bien sûr, à demain. Le 18-20, la suite, c'est le journal de 19h, présenté par Hélène Philly. Juste après, il y a le téléphone sonne. Merci de partager votre soirée avec la nôtre. Ne changez rien.